babe, I love you. Babe, I love you. Ooh, babe.
Chez vous, sur la route ou au travail, écoutez Bel RTL Musique. Tous les soirs, Bel RTL vous offre toute la musique que vous aimez.
Bonus track.
Bonus track. Éric Jean-Jean.
Jusqu'à 22h sur RTL.
Bonsoir, émission spéciale dans Bonus Track aujourd'hui, spéciale autour de Kurt Cobain. Il y a 30 ans, nous apprenions sa disparition. Alors tout à l'heure, en fin d'émission, deuxième partie en tout cas d'émission, Charlotte Blum viendra nous parler de Kurt Cobain et de sa personnalité hors norme. Il y aura bien sûr l'actualité musicale avec Perrine et Pascal. Mais pour commencer, je vous propose de nous plonger dans un album culte. Écoutez ça.
Bonus Track.
Bonus Track.
Éric Jean-Jean, jusqu'à 22h sur RTL.
Le 24 septembre 1991, déflagration dans le monde de la musique. C'est un album culte qui sortait, il s'appelle Nevermind. Un album qui, à la surprise générale, va propulser un trio d'Aberdeen, USA, au sommet des charts. 30 millions d'exemplaires vendus, ce sera le grunge. Et le son de toute une génération. Avec une voix, celle-ci. Kurt Cobain. C'est plus qu'un tube, hein. Cette chanson est un hymne. Elle s'adresse directement à une jeunesse en mal de vivre. Smell like teen spirit. Sent comme l'esprit d'adolescent. Écoutez la remontée et la violence. Smell Like Teen Spirit sent comme l'esprit d'adolescent. Pourtant, cet hymne révolutionnaire tient en fait son origine à Teen Spirit, qui n'est autre que une marque de déo pour adolescents. Mais ce qui va faire son sulfureux succès, c'est que les paroles sont à peine articulées par Cobain. Et elles ne sont pas retranscrites sur la pochette. Certaines radios vont même les boycotter. Parce qu'on ne comprenait rien. Mais finalement, c'est MTV qui va en faire un tube en pensant en boucle, hein, le clip vidéo. Alors un clip rigolo, d'ailleurs ultra punk, où on voit le groupe jouer au milieu d'une foule d'ados en plein pogo avec des cheerleaders et plein d'autres trucs comme ça dans une salle de sport. Mais ce qui fait la particularité de ce titre, et vous l'entendez hein, depuis que je parle dessus, c'est l'alternance entre couplets calmes et mélodiques, voilà. Et puis des refrains durs, bruyants, une inspiration qui vient à la fois des Pixies mais aussi d'une chanson des Kingsmen. Alors ça, j'ai envie de vous dire, c'est le premier contact qu'on a avec cet album, hein, Nevermind. Mais l'album en lui-même mérite qu'on se plonge à l'intérieur. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter In Bloom. Pur morceau de grunge, guitare saturée, batterie très en avant. Morceau numéro 2 sur l'album, In Bloom. C'est sur RTL. Et encore une fois, l'alternance de couplets mélodiques et de saturation sur les refrains. Morceau que Kurt avait enregistré au départ avec le batteur Chad Channing, avant qu'il ne soit remplacé par Dave Grohl, qui apportera sa puissance et, écoutez bien, sa précision à ce morceau. En fait, explication, pendant l'enregistrement de ce deuxième album, le groupe est en pleine mutation. Les relations entre le leader, Kurt Cobain, et le batteur, Chad Channing, sont de plus en plus tendues. Et c'est là qu'arrive Dave Grohl, batteur d'un autre groupe repéré par Kurt. Et c'est lui qui va faire monter le niveau d'un cran, hein, le niveau musical de Nirvana. Le bassiste Chris Novoselic dira qu'avec Dave Grohl, Nirvana a trouvé son chaînon manquant. Désormais, Nirvana, c'est Chris Novoselic à la basse, Kurt Cobain au chant et à la guitare, et Dave Grohl à la batterie. Après Smell Like Teen Spirit, voici le deuxième single tiré de Nevermind. Chanson plus mélodique, pop, riff de basse de dingue, qui va marquer toute une génération et ouvrir le grunge à un public plus large, comme As You Are. Qui va confirmer le succès planétaire de Nirvana. Hein. Groupe originaire d'une petite ville de l'état de Washington, Aberdeen, mené par ce charismatique chanteur Kurt Cobain. Un groupe qui avait commencé à se faire un nom avec un premier album, Bleach, sorti en 89, et surtout qui était, un peu connu grâce à des prestations scéniques mémorables. Alors je vous en parle depuis le début de ce style musical qui s'appelle le grunge. Mais c'est quoi exactement le grunge ? En fait, c'est à la fois un style musical et une attitude. Un style musical qui naît à la fin des années 80 à Seattle, dans l'état de Washington. C'est le nord-ouest des États-Unis, en gros, en haut à droite. Un mélange de punk, vous l'entendez ? De heavy metal et de rock. Et l'accessoire de prédilection du guitariste grunge, c'est la pédale de distorsion. Vous entendez là, hein ? En fait, cette pédale, quand on appuie dessus, elle permet de passer d'un son de guitare clair à un son saturé. Écoutez bien. Un son brut, donc. Et des paroles super sombres qui vont parler à toute une jeunesse, la jeunesse de l'époque. Le grunge qui va devenir un mode de vie, avec la panoplie aussi qui va avec. Parce que le grunge, c'est aussi un aspect volontairement crade et négligé. Chemise de bûcheron, jean déchiré, cheveux longs et sales qui cachent le visage. Un look adopté par toute une génération d'ados à travers le monde. Et vous savez d'où il vient ce look ? Il vient d'une pochette d'album, l'album Harvest de Neil Young. Quand vous ouvrez la pochette, à l'intérieur, il y a une photo de Neil Young avec une poignée de laiton qui était une des poignées de la ferme où il avait enregistré sa ferme, l'album Harvest. Et on le voit se refléter dans le laiton et il a des cheveux longs et sales, une chemise de bûcheron posée sur un t-shirt blanc, un jean déchiré et des pompes de chantier. Neil Young qui a été, très important dans l'univers des punks et du grunge. D'ailleurs, Kurt Cobain, vous le verrez, a été beaucoup inspiré jusqu'à la fin de sa vie par cet artiste-là. Cinquième titre de l'album, on revient à Nevermind. Et troisième single, c'est l'une des chansons préférées des fans du groupe. Elle s'appelle Lithium. I'm so happy, cause today I found my friends in my head. I'm so ugly. That's okay, so chanson qui fait référence au sel de lithium, qui traite des troubles bipolaires. Chanson écrite par Kurt Cobain, qui d'ailleurs signe toutes les chansons de l'album. Kurt, c'est lui-là, chanteur et guitariste, personnalité magnétique, artiste maudit, qui toute sa vie va lutter contre la dépression, les addictions et les pulsions suicidaires. D'ailleurs, on va pas se mentir, l'album est parsemé de références à la drogue, au mal-être et à la mort. Des sujets qui parlent aux fans du groupe et plus généralement aux ados. Toujours dans cet album, Nevermind, voici finalement un morceau totalement acoustique qui casse un peu l'atmosphère et qui s'appelle Polly. Première accalmie en fait dans le bruit et la fureur de l'album. Mais le thème est terriblement violent. Polly veut un gâteau. Polly veut des gâteaux, elle voudrait peut-être un peu plus de nourriture. Elle me demande de la défaire de ses liens. Je vous disais thème violent pour cette chanson. En fait, Cobain, écoutez bien, s'est inspiré d'un fait divers pour l'écrire. Une jeune fille de 14 ans, séquestrée, torturée et violée par son ravisseur après un concert d'un groupe de punk, et qui va réussir à s'échapper en gagnant la confiance de son tortionnaire. En fait, ce qui fait que cette chanson est malsaine, c'est qu'en fait, Cobain l'écrit du point de vue du ravisseur et non de la victime. Écoutez Polly sur RTL. Allez, petit bond en avant maintenant dans cet album Nevermind pour arriver au 11e titre, une chanson qui s'appelle On a Plane. Et là aussi, on retrouve ce son saturé, hein, écoutez derrière. C'est ça qui est l'emblématique du grunge. Le phrasé mélodique de Kurt Cobain, maintenant. Et le son saturé derrière. C'est peut-être l'un des succès, l'un des secrets du succès de Nirvana. Paradoxalement d'ailleurs, Nirvana, avec le recul, n'aimera pas cet album qu'il va juger trop commercial. Et pourtant, Nirvana serait peut-être pas arrivé à ce son sans la patte de son producteur. Personnage central de l'album s'appelle Butch Vig, qui sera quelques années après le batteur de Garbage, et c'est lui qui va produire tous les groupes phares de l'époque, tels que les Smashing Pumpkins, Sonic Youth ou encore les Foo Fighters, qui est le groupe que formera Dave Grohl après la mort de Kurt Cobain. Allez, voici la dernière piste de cet album, Nirvana. Something in the Way, un morceau crépusculaire, sorte de marche funèbre où Cobain se décrit prostré sous un pont où il allait se réfugier quand il était petit et que ses parents se déchiraient. Underneath the bridge, top is sprung a leak, and the animals I've trapped all become Cobain, c'est l'âme torturée du groupe. C'est aussi lui qui va incarner le grunge dans l'esprit de toute une génération. C'est Kurt Cobain qui va marquer les années 90, tout comme Jim Morrison a marqué les années 70. Et tout comme lui, il aura cette fin tragique, car il va rejoindre le Club des 27 seulement 3 ans après la sortie de cet album. On est le 8 avril 94. Kurt Cobain est retrouvé mort chez lui, à Seattle, suicidé d'une balle dans la tête. À côté de lui, on retrouvera un dernier message, « Better to burn than fade away ». Il vaut mieux brûler que dépérir. Citation d'une chanson de Neil Young. On en parlait tout à l'heure, tirée de l'album Hey Hey My My. Il laisse derrière lui une fille, Frances Bean, qu'il avait eue avec Courtney Love. Alors, avant d'arrêter ce focus autour de l'album Nirvana Nevermind, il faut quand même que je vous parle du bonus track de cet album. Vous l'entendez derrière moi. Si on laisse tourner le disque après Something in the Way pendant une dizaine de minutes, il y a ça. Chanson cachée. Qui n'était pas présente d'ailleurs sur les 20 000 premières copies du disque. Une chanson qui s'appelle Endless Nameless. Un truc complètement barré de plus de 6 minutes dans laquelle Cobain retranscrit son mal-être lié à sa dépression et à ses différentes addictions. L'histoire dit que pendant l'enregistrement de ce titre, il cassera sa guitare. D'ailleurs, vous entendez qu'il la maltraite là. Nevermind, donc, en focus sur RTL, un album culte qui se vendra à plus de 30 millions d'exemplaires à travers le monde. Il va même réussir à détrôner le Dangerous de Michael Jackson l'année de sa sortie. Et puis, bien sûr, il y a cette pochette culte dont on a beaucoup parlé dans cette émission, le bébé qui nage dans une piscine appâté par un billet $1 accroché à une canne à pêche. Bébé qui a plus de 30 ans aujourd'hui, qui est toujours appâté par les dollars a priori, puisqu'il a poursuivi en plusieurs fois, à plusieurs reprises, le groupe pour essayer de récupérer des compensations financières qu'il n'a finalement pas vraiment obtenues. Voilà. Ce qui va se passer maintenant, c'est Perrine et Pascal pour l'actualité musicale sur RTL. Et puis en deuxième partie d'émission, la formidable Charlotte Bloom, qui est peut-être la plus grande spécialiste du grunge en France, nous rejoint pour parler de la personnalité de Kurt Cobain sur RTL.
Bien mieux comme ça. Je veux garder ce feu qui loin de vous me survivra. Je vous aime vraiment, mais je peux pas rester là. Le monde est tellement grand que je m'y perdrai dans vos bras. C'était écrit ce qui se passe entre nous. On rêvait d'infini, mais c'était pas pour. C'est écrit, mais face au tout. Dites-moi juste oui, je m'en remets à vous. Ouh, je vous aime, adieu. C'est écrit, attends, c'est tout. Donnez-moi
jours à 18h, venez vous informer sur Bel RTL.
C'est parti, il est 18h.
Rendez-vous avec l'info complète du jour, ce qu'il s'est passé dans le monde et près de chez vous.
Pour mieux comprendre le monde qui nous entoure et ce qui se passe près de chez nous, chaque soir, trois questions.
Tous les sujets du moment décryptés pour vous par nos journalistes et experts.
C'est la première fois qu'un ancien président se retrouve devant la justice pénale.
Restez informés et connectés en écoutant Bel RTL Soir, chaque jour à 18h.
Le tout en musique et avec bonne humeur.
Bel RTL, on est là pour vous informer.
Bonus track.
Bonus track jusqu'à 22h.
Avec Eric Jean-Jean sur RTL.
Et l'actualité musicale dans cette émission avec Pascal Amiot et Perrine Souquet. Bonsoir Perrine.
Bonsoir.
Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Perrine, on commence par toi. Alors beaucoup d'actu là pour Mylène Farmer.
Oui, la chanteuse dont on célèbre d'ailleurs en ce moment le 40e anniversaire de son premier single, Maman a tort, va sortir le 19 avril prochain l'album Remix XL avec ses plus grands titres remixés par des artistes comme The Avener ou même David Lynch hein, qui a remixé le morceau Je te rends ton amour. Mais on a appris aussi qu'elle serait qu'on pourrait la retrouver au cinéma.
Ah bon ?
Puisqu'elle doublera le personnage du papillon Blossom dans le film Blue et compagnie, un dessin animé de John Krasinski qui sortira en France le 8 mai prochain. Elle sera notamment accompagnée de José Garcia qui donnera lui sa voix au personnage de Blue. Et puis bien sûr, on la retrouvera au Stade de France pour trois concerts du 27 septembre au 1er octobre prochain.
Ça va être un événement, j'ai hâte de la voir. Bon alors, des nouvelles des fans d'Harry Styles ?
En fait, on recherche des Harrys. Et si vous en êtes un, c'est-à-dire un fan de Harry Styles, ce job est peut-être pour vous. C'est le village natal d'Harry Styles, Holmes Chapel, dans le nord-ouest de l'Angleterre, qui cherche des guides touristiques aux compétences particulières, c'est-à-dire avec des connaissances approfondies sur Harry Styles. Ah, le petit village, en fait, a vu débarquer pas moins de 5000 fans l'année dernière en pèlerinage sur les lieux qui ont marqué l'histoire d'Harry Styles, comme par exemple le lieu de son premier baiser. C'est un viaduc ferroviaire près d'une route qui est très fréquentée de la ville, où Harry, en plus, a laissé un graffiti avec son nom. Et donc, la population a décidé d'aller plus loin et de lancer ses propres tournées officielles qui passeront donc par la boulangerie où Harry a travaillé, ses écoles ou encore le restaurant chinois où il a emmené Taylor Swift. Et il y a une journée de recrutement qui sera organisée par le village. Donc, avis aux fans, hein, si vous avez envie de ce job d'été.
C'est super. Merci infiniment. C'était Perrine Souquet, productrice de cette émission, journaliste musicale. Et voici le patron de la programmation musicale d'RTL. Pascal, qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui ?
Est-ce que tu te souviens de ce garçon suisse à l'univers particulièrement loufoque qu'on avait reçu dans le grand studio ?
Je pense à Stéphane Echard, mais à mon avis, c'est pas lui.
On l'avait reçu avec Stéphane Echard. Ah. Il s'appelle Guillaume de Cadet-Bostany.
Oh, mais oui, bien sûr, qui avait créé. Alors, il avait créé son royaume, le royaume de Cadet-Bostany.
C'est la République de Cadet-Bostany.
Ah, oui,
avec une monnaie, il avait les billets, enfin voilà, il a un univers absolument très, très incroyable. Et donc il continue sa carrière en faisant des morceaux tout à fait intéressants. Et voilà, il est sur un prochain projet dont le premier single vient d'être mis en radio vendredi dernier. Et vous savez, Guillaume, il fait appel à des chanteuses pour mettre des vocaux sur ses titres parce que lui, il est vraiment à la composition
et
à la production. Et cette fois-ci, il a fait appel à une jeune fille qu'on connaît, qu'on a reçue aussi dans le grand studio et qui s'appelle Gabriella. Vous vous souvenez peut-être de ça?
In the middle of the night.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr.
Voilà, Gabriella est canadienne, elle est violoniste. Voilà, on l'avait reçue, je crois, il y a 6 mois à peu près dans le grand studio. Et c'est elle qui chante donc sur ce premier single du nouveau projet de Cadet-Bostany, qui s'appelle Easy, et qui est assez teinté de reggae, parce que ça, c'est une demande de son père, qui lui a dit « Pourquoi tu fais pas un single de reggae ?» Eh bien voilà.
Through the week, then we'll make it on top. Makes no sense to talk about that, but better you don't cut me off. And
And I go easy on me. I said I take it easy. I take it easy on me. I said I take it easy. Oh, we can do anything together. Long, long days got me sick and tired of dating your friends when you about us. I love it when I sit inside. We can do anything but never get on a well like that trying to tear us apart. Go where friends need you not to run. I will be there with you tonight. And I go easy on me. I'll set up.
Ça passe cette histoire.
Ouais, tout à fait, voilà. Easy, le nouveau single de Kade Bostani avec au vocaux la chanteuse canadienne Gabriella.
Merci beaucoup, cher Pascal. Rendez-vous lundi, évidemment. Ah, mais non, justement, la semaine prochaine, il n'y aura pas Pascal, il n'y aura pas Perrine parce que c'est la semaine de vacances pour Bonus Track. Ce sont des émissions fraîches. Par exemple, lundi, on fera une émission spéciale autour du métal. Donc, des émissions que vous n'avez jamais entendues. Ce ne sera pas un best-of, mais on ne sera pas là physiquement. Donc, on se retrouve dans deux semaines, Pascal, avec des nouveautés quotidiennes.
Mon amour. Dis-moi à quoi tu penses, si tout ça a sens. Désolé si je te dérange, mon amour. Te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas. C'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu. L'impossible si tu le veux. Promets, j'ai compris. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je joue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas?
Léon fait tourner les serviettes. Chaque semaine, Bel RTL et Léon se déplacent en Wallonie ou à Bruxelles pour mettre un coup de projecteur sur les travailleurs. Tous les auditeurs sont également invités à rejoindre Léon pour déguster un paquet de frites et tenter d'ouvrir la valise Bel RTL. À l'intérieur, un cadeau surprise peut-être pour vous. Vendredi, Léon vous attend à la zone de police Boren à Colfontaine. Léon fait tourner les serviettes, c'est tous les vendredis à 11h sur Bel RTL.
Bonus Track.
Bonus Track. Éric Jean-Jean.
Jusqu'à 22h sur RTL.
Et on poursuit notre soirée autour de Kurt Cobain. Et je vous propose de découvrir maintenant Kurt Cobain au travers des yeux de Charlotte Bloom. Bonsoir Charlotte, merci d'être
Bonsoir,
là.
Bonsoir, ma grand plaisir.
Plaisir de t'avoir. Charlotte, à qui on doit Grunge, Jeunesse éternelle, qui est sorti en 2021 aux éditions EPA. Avec toi, on va revenir sur celui qui incarne Nirvana et même le grunge en général, d'ailleurs, pour le grand public. Hein, c'est Kurt Cobain, je le disais tout à l'heure, qui a mis fin à ses jours il y a exactement 30 ans aujourd'hui. Déjà, qu'est-ce qu'on sait, Charlotte, de sa mort?
Que c'est un suicide, que c'est un suicide à 27 ans.
C'est bidon.
Non, mais oui, non, ça, il faut qu'on arrête en fait de toute urgence parce que c'est vraiment ignorer la souffrance de l'artiste. Et il l'a dit et répété qu'il souffrait, qu'il était malheureux, que finalement cette célébrité tant désirée, il ne l'aimait plus. Et ce serait vraiment dommage de faire semblant qu'on n'a pas vu, parce que sinon ça va arriver encore.
Oui, de dire que c'est Courtney Love qui a tout fait pour, c'est bidon.
Mais c'est débile.
Ouais. Qu'est-ce qui l'a poussé à se suicider? Il était en pleine ascension, tu l'as dit, c'est-à-dire cette célébrité qu'il voulait. C'est quoi? C'est le mal-être. Alors, est-ce que c'est le mal-être qui provoque la drogue? Est-ce que c'est la drogue qui provoque le mal-être? On saura pour le coup vraiment jamais.
Alors, a priori, la drogue, c'est provoqué par des douleurs qui sont dues à un ulcère. Mmh. Et c'est un peu la seule échappatoire qu'il a trouvée. Et puis après, l'engrenage de la drogue. Et c'est un peu la seule échappatoire qu'il a trouvée. Et puis après, l'engrenage de la drogue. Et Courtney Love et ses amis, et Michael Stipe de REM, nombreux sont ceux qui ont essayé de le faire arrêter, qui n'ont pas réussi, qui ont fait des interventions. C'est très américain. On attend à la maison le mec et on l'engueule en espérant qu'il arrête. Il a jamais réussi à arrêter l'héroïne. Après, c'est un cercle vicieux. En tout cas, ça vient de douleur et après c'est une forme de culpabilité très intense qui l'a poussé à ça. Il a souvent dit quand je monte sur scène, j'aime plus ce que je fais. Je ne veux pas faire semblant. J'ai plus envie de jouer mes titres. On me demande tout le temps la même chose. Je suis pas un pantin. On lui ajoutait des dates et des dates et des dates de tournée, alors que lui, ce qu'il aimait, c'était la musique. C'était pas se donner en spectacle et faire le pantin. Donc, il a beaucoup culpabilisé de ne pas aimer tant que ça ce rêve que beaucoup ont eu et que peu ont atteint. Et aussi de percer plus que les copains. De percer plus que me donnaient, que ses idoles, que les Melvins, de vendre plus d'albums que des gens qu'il considérait comme ses mentors. Donc il a vécu un truc de honte quasiment et qui raconte dans son journal et qui raconte dans la lettre qu'il a laissée au moment de son suicide, de se dire pourquoi moi je mérite pas et en plus je suis pas heureux donc j'arrête.
C'est terrible, je comprends et le fait alors le fait justement qu'il ait eu cette réunion, si je fais chronologiquement les faits, ça commence par l'Italie où il fait un malaise.
Ouais, en mars.
Il est hospitalisé, il revient à Los Angeles. Là ses potes lui font partir dans une clinique de détox d'où il s'échappe,
comme un enfant, qui fait le mur, comme un enfant qui a fait le mur de l'école, enfin c'est quelqu'un qui s'est beaucoup échappé en fait, Kurt Cobain, de partout où il était, qui a jamais trop trouvé sa place quelque part. Et je pense aussi qu'il y avait une sorte de soif de liberté et encore plus dans la prison qu'est la célébrité, dans la prison que sont les photographes qui attendent devant la porte, qui sont les journalistes qui ont harcelé sa femme quand elle était enceinte. Courtney Love, enceinte, ça a été un calvaire, elle était poursuivie partout, on l'a accusée de se droguer en étant enceinte, Cobain a essayé de rattraper le coup, a même menacé physiquement les rédacteurs en chef des magazines qui accusaient sa femme. Enfin, il avait cette soif de liberté et de décider pour lui-même ce qu'il allait faire, et après cette OD, cette overdose qui a eu lieu en mars, effectivement en Italie, il raconte que le médecin qu'il a vu en Italie lui a dit « Monsieur, il va falloir choisir entre la vie et la mort », et il dit « Et moi, j'ai choisi la mort ».
Et tu penses, alors je vais totalement extrapoler, puis après on va passer à autre chose, mais tu penses que si, par exemple, on lui avait laissé un an ou deux sans musique, ou en tout cas sans concert, sans obligation, on aurait pu le sauver, ou c'était déjà trop tard?
Je suis peut-être naïve, mais je pense que oui. Et je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand Taylor Hawkins, le batteur de Foo Fighters, est mort, et Foo Fighters qui est né sur les cendres de Nirvana, il y a eu des papiers qui ont expliqué qu'il a essayé de faire enlever des dates de cette tournée immense de Foo Fighters, et que le management de Foo Fighters a refusé, et qu'il disait à tout le monde « je suis épuisé, j'en peux plus, j'ai plus l'âge de faire des dates tous les jours, de voyager », et que personne ne l'a écouté. Donc moi je pense que oui, et j'ai l'impression qu'il y a eu un éveil des consciences depuis, et je vois des groupes comme Pearl Jam, que moi je suis depuis longtemps. Depuis ces morts-là, ils jouent moins longtemps, ils font des concerts plus courts, ils se préservent. Et je pense qu'il faut écouter les artistes qui disent « je suis fatigué ». Il faut arrêter de dire aux artistes « attends, t'as voulu l'argent, t'as voulu la célébrité, maintenant tu subis ». Non. En fait, il faut les protéger comme n'importe qui.
Alors, Charlotte, avec toi, passionnante Charlotte, je t'écoute parler. Du coup, je réfléchissais plus à ce que je devais dire. On va revenir sur le parcours. Alors bon, après, il revient, il va dans sa maison de Seattle, il mettra fin à ses jours, on va le retrouver quelques temps après qu'il se soit suicidé. Mais pour mieux comprendre Kurt Cobain, on va revenir sur son parcours avec toi, Charlotte, à travers plusieurs titres que tu as choisis pour nous. On va commencer par On a Plane de Nirvana. Ça fait partie de Nevermind qu'on a écouté tout à l'heure en extrait dans notre focus. Je parle de ce titre qui s'appelle On a Plane. Alors ça fait référence à ses relations toxiques avec sa maman et aussi sa propre estime de lui, c'est ça?
Très basse, extrêmement. Mais toujours avec cette histoire de culpabilité. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui a été artiste très jeune, donc c'est quelque chose qu'il n'a pas travaillé plus que ça. Il dessinait quand il avait 3-4 ans, il a toujours chanté, à 2 ans il chantait déjà. Ça a toujours été un truc comme ça, et aussi un truc qui circulait dans sa famille. Il y avait une vraie fibre musicale, à part ses parents, dans sa famille. Donc je pense qu'il ne s'est jamais rendu compte du talent qu'il avait. Et effectivement, une estime de lui qui est extrêmement basse, une relation avec sa mère qui est très difficile, parce qu'après le divorce de ses parents, ses deux parents se sont remariés, sa mère s'est mise avec un homme qui la battait, elle n'est pas partie de ce couple, donc lui il a été témoin de violences physiques et de pas pouvoir sauver sa mère d'une certaine manière, et de tensions qu'il a eues dans les relations avec sa mère, parce qu'il a jamais pardonné à ses parents de divorcer. C'était quelqu'un qui cherchait la stabilité tout le temps, partout, et ça explique aussi son couple très serré avec Courtney Love et son amour pour sa fille malgré son suicide. Mais la perte de stabilité en a fait un gamin qui était à l'origine très gentil, très doux, très souriant, en a fait un gamin très dur. Et une relation avec sa mère très difficile, il en parle dans cette chanson, il en parle beaucoup dans son journal, où il dit « j'aimerais la voir pour la dernière fois, j'aimerais qu'elle disparaisse ». Enfin voilà, il est très dur avec sa mère, et il est très dur avec ses parents. Et d'ailleurs, il a été élevé par ses parents, mais aussi par d'autres gens de sa famille, par des parents de ses copains. Enfin, c'est un gamin qui a été brinque-ballé un peu partout. Et sa haine contre sa mère, je pense que c'est sa haine contre tous les gens qui n'ont pas su prendre soin de lui.
Alors, il est né en 67 à Aberdeen, état de Washington, à côté de Seattle. Tu t'es rendu sur place, Charlotte. Ça ressemble à quoi, Aberdeen?
Ça ressemble à n'importe quelle petite ville paumée d'Amérique. J'y suis allée un samedi après-midi pour tourner un documentaire. Il n'y avait personne. Mais il n'y avait personne dans les rues. Le quartier où est la maison de Kurt, qui est un point touristique, en fait, d'Aberdeen, le seul, c'est un quartier...
C'est horrible.
Oui, mais c'est très abandonné. Ouais. C'était un quartier où il y avait beaucoup de drapeaux Trump dans les maisons. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer le couple qui a racheté la maison de Cobain, Lee et Danny Bacon, qui sont adorables et qui ont vraiment fait un acte, non pas pour le capital, mais... pour l'amour, et qui en ont fait un musée gratuit, qui essayent de faire en sorte que cet endroit devienne un vrai lieu de recueillement pour les fans. Et moi, quand je les ai rencontrés là-bas, ils m'ont dit, j'étais avec ma chef opératrice et donc avec nos caméras, et ils nous ont dit, on reste avec vous restez pas toute seule dans ce quartier, c'est Felony Street, c'est la rue des hors-la-loi, quoi. Enfin, voilà, c'est un quartier à l'abandon.
Alors, tu le disais, ses parents divorcent, il a 10 ans, il vit avec sa mère avant de rejoindre son père, qui va se remarier, ça se passe mal dans le nouveau foyer. C'est quoi, alors tu parlais du dessin aussi, mais c'est la musique qui va devenir son échappatoire. À quel moment il rencontre la musique, Kurt Cobain?
Il a grandi avec la musique, donc comme tous les ados de l'époque, il a grandi avec les disques de ses parents, donc c'est un très grand fan des Beatles, qui explique...
Comme nous tous.
Bah pas moi malheureusement, alors voilà. Moi chez moi on écoutait Sting et Phil Collins, donc voilà. Mais oui, il a grandi avec cette... C'est bien, moi j'aime bien. Il a grandi avec cet amour de la mélodie. Ouais. Et c'est vraiment les Beatles qui sont pour moi la base de la musique la plus simple de Nirvana. C'est voilà, ces accords simples, ces mélodies, des refrains extrêmement catchy. Et c'est plus tard qu'il a découvert le punk, le hardcore, grâce à Buzz Osborne, le chanteur des Melvins, qui est son initiateur à tout ce monde. monde-là.
Mais il arrive comment dans ce petit monde de Seattle qui fait de la musique, qui fait de la musique grunge, il arrive comment au rock
En suivant gentiment Buzz Osborne, okay. Il devient le roadie des Melvins, donc il porte les sacs, il porte les enceintes, il donne des coups de main à droite, à gauche, il est le stagiaire, d'une certaine manière, des Melvins, et il découvre et il prend claque sur claque à des concerts à Seattle, mais aussi à Olympia, enfin toute la région de l'Oregon, la région de Washington, tout ce nord-ouest pluvieux américain, ouais. Où il n'y a rien d'autre à faire qu'aller à des concerts. Et là, il découvre Black Flag, il découvre Bad Brains et tous les groupes qui vont rajouter un peu des choses qui grattent à ses racines des Beatles, quoi.
Autre titre que tu as choisi pour parler de Kurt Cobain, Charlotte Bloom, c'est Omi, extrait de l'album Unplugged sur le MTV Unplugged, hein, qui est sorti juste après la mort de Kurt Cobain en novembre 94, enregistré un petit peu plus tôt en novembre 93. Cette chanson, la voici sur RTL. Alors ce titre, c'est une reprise des Meat Puppets, dont deux membres, Chris et Kurt, ont rejoint le groupe sur quelques titres lors de ce concert acoustique. D'ailleurs, c'est lui qui les impose à MTV, parce qu'ils ont d'autres choix. Je crois qu'ils veulent Eddie Vedder, un truc comme ça, MTV. Ils veulent faire du chiffre, quoi.
Oui, bah après MTV c'était le centre du monde à cette époque, hein, c'est eux qui fabriquaient les groupes et qui les brisaient comme ils voulaient, mais Kurt Cobain, il a vu une occasion de ramener ses copains, de faire de la visibilité à ses copains, ouais. Donc à des groupes dont il est fan et, comme je disais tout à l'heure, qui n'ont pas percé. Et
il a toujours aidé ses copains depuis le début.
Toujours. C'est-à-dire qu'il portait des t-shirts de ses groupes préférés partout, au SNL, sur les couves des magazines. Il a toujours des t-shirts de petits groupes obscurs que personne n'écoute. Il emmène ses groupes préférés, les Butthole Surfers, Shockboard. Il les emmène en tournée. Il se fait tatouer le logo du label Kay Records, qui est un tout petit label d'Olympia, mais qui est un petit label, mais très important pour la culture punk ou la culture des Riot Girls. Donc c'est quelqu'un qui s'est servi de sa célébrité, toujours dans ce truc de culpabilité, en se disant « oui, mais ça va servir à d'autres ». Et malheureusement, ça n'a pas servi à d'autres. Les Meat Puppets n'ont pas percé. Et après l'Unplugged. Parce que je pense que, qu'il le veuille ou non, il était une figure de proue. Parce qu'il avait le visage qu'il avait, parce qu'il avait la voix qu'il avait, parce que ironiquement, son honnêteté, son authenticité en a fait une icône. C'est-à-dire tout ce qu'il voulait pas, il avait beau essayer de fuir ça, et il a beau essayer de s'être caché, il est tout recroquevillé dans cet Unplugged. Il est pas joli. Il s'excuse à moitié d'être là. Non, mais il y a pas. Eddie Vedder dans l'Unplugged de Pearl Jam est très séduisant et très séducteur. Ouais. Kurt Cobain ne l'est absolument pas. On sent qu'il essaye de disparaître le plus possible. Il ramène Pat Smear aussi, son copain Pat Smear, qui après est dans Foo Fighters. Ouais. Et malgré tout,
un des membres fondateurs de Nirvana, si ma mémoire est bonne, de guitariste qui suivait Nirvana.
Qui a rejoint Nirvana, membre de The Germs, enfin très grande figure punk rock.
Ouais.
Et il a jamais réussi à disparaître derrière les autres. Il a jamais réussi à sortir de la lumière à part en mourant.
Faut qu'on dise deux mots sur ce Unplugged quand même. Nirvana allait amorcer un virage plus pop, plus acoustique. On en est où là dans leur carrière? Parce qu'ils viennent de faire un album qui marche un peu moins. C'est pour ça qu'on leur impose l'acoustique en fait, pour faire de la promotion.
Alors non, ça c'est un concept d'MTV, c'est l'MTV Unplugged, c'est les gens.
Oui, mais je veux dire, c'est pour les mettre en valeur ou pas du tout, ou c'est juste normal de le faire.
Non, je pense que c'est un stop nécessaire promotionnel des groupes de l'époque. Tous les groupes grunge l'ont fait, mais les Cure, Lenny Kravitz, Alanis Morissette, enfin ouais. Tout le monde a son Unplugged d'MTV, c'est vraiment le moment important d'une carrière. Mais lui, il a aussi saisi cette opportunité pour montrer que c'était un chanteur. Un vrai chanteur, pas un crieur, un chanteur, pour rendre hommage à ses idoles, donc à Bowie notamment, enfin pour montrer qu'il a une culture musicale et que c'est pas on a longtemps fait penser que les musiciens grunge c'était des benets qui savaient jouer trois accords, qui savaient pas écrire, ouais. Et qu'ils savaient que crier et qu'ils étaient sales et qu'ils s'habillaient mal, enfin on les a fait passer pour des choses qu'ils n'étaient pas. Et il y a une culture musicale très forte dans le grunge. Il y a des gens qui viennent du blues et des gens qui viennent du jazz, mais personne n'a envie de le raconter parce que c'est pas très fun. Mm-hmm. Et lui, il a profité de ce moment-là pour montrer qu'il était un peu à poil de tous ces détails grunge dont il voulait pas du tout.
On va parler d'un autre personnage maintenant. On est très elliptique, évidemment. Hein. Je pourrais passer des heures à t'écouter parler, Charlotte. Il y a un autre personnage central, c'est Courtney Love. On va écouter ce titre écrit par Courtney pour Kurt au début de leur relation. Doll Parts.
Yeah.
Part, c'est le deuxième album studio de Hall, Live Through This. Comment ils se sont rencontrés ?
Ils se sont rencontrés dans ce petit microcosme qu'est Seattle, qu'est la scène grunge, où tout le monde connaît tout le monde. De toute façon, c'est des petites régions où on rencontre les gens dans les concerts ou dans les bars. Donc c'est assez simple. Avant d'être avec Courtney, il était avec Toby Veil d'un autre groupe, de Bikini Kill. Donc il y a un truc... Tous ces groupes-là, à un moment, sont sortis ensemble.
Donc, hein. Je te tiens avec la chanteuse de Bikini Kill. C'est vrai, cette histoire de Smell Like Teen Spirit, le fait qu'elle ait mis à la bombe au-dessus de sa tête, Kurt, Smell Like Teen Spirit.
Oui, oui, tout à fait.
Bon, d'accord. Fin de parenthèse, pardon.
C'est important, Bikini Kill. C'est important, la révolution féministe.
Mais c'est super important, ouais.
Et c'est...
On y reviendra, mais il était féministe, Kurt Cobain.
Assumé. Alors aujourd'hui, quand on dit il est féministe, on se dit ouais, et alors ? Mais il faut se replacer dans les années 90, ouais. Dans un truc de virilisme très fort où il fallait être un bonhomme. Et Kurt Cobain, c'est un des premiers qui s'est mis en robe sur des couvertures de magazines, qui a mis en avant des groupes de femmes. Il a tourné avec L7 pour défendre les plannings familiaux et le droit à l'avortement. Il écrit dans Incesticide que si les fans, je mets des guillemets qu'on voit pas, mais si les fans qui achètent cet album sont homophobes ou misogynes ou racistes, ils peuvent leur opposer tout de suite et ils sont pas les bienvenus au concert. Enfin, c'est quelqu'un qui est très ouvert sur ses engagements.
Et puis il y a cette chanson aussi, Rape Me, qui a souvent été mésinterprétée.
Très mal comprise, parce que c'est vraiment une chanson dans laquelle il se met dans la peau d'une femme qui se fait violer, donc déjà très rare
Rape
de la part d'un homme. Viole-moi. Moi, j'ai entendu mon papy chanter cette chanson dans la voiture en me disant oh, « Mon papy, si seulement tu savais ce que t'es en train de dire !» Et en se mettant à la place d'une femme, il fait jouer un jeu de rôle que les hommes refusent catégoriquement de jouer. Alors, c'est raconté d'une manière simple qui vient de cette culture pop, Britpop, Beatlesienne, où on va droit au but. Mais c'est extrêmement profond et c'est extrêmement nouveau.
Alors revenons à Courtney Love. Ils se rencontrent donc dans le cadre de la musique, dans ce petit monde. Tu le disais, ils ont quelle relation? Parce que faudrait peut-être essayer de casser la gueule à cette idée, genre elle c'est la salope qui a profité de lui et qui l'a amené jusqu'à la mort. Est-ce que ça c'est vrai et quelle relation ils ont?
Non mais ça c'est horrible.
Mais vraiment,
il y a un vrai slut shaming sur Courtney Love parce que c'était une femme extrêmement libre et qui était avec qui elle voulait. Et effectivement, elle a eu des relations avec beaucoup de monde dans ce milieu-là. Mais justement cette chanson Doll Parts qu'elle a écrit dans les toilettes d'une fête où Kurt était là, ils se connaissaient pas depuis très longtemps et lui fréquentait d'autres filles et elle raconte dans cette chanson tout le monde veut une part du gâteau mais moi je veux la plus grosse part. C'est le début d'un vrai très très grand amour, difficile à maintenir dans ce milieu un peu flottant. Et non, c'est une vraie histoire de passion et c'est hyper, hyper facile de taper sur les femmes, c'est hyper facile de taper sur la personne qui reste, surtout quand elle correspond pas au code.
Et qu'elle a une très forte personnalité aussi.
Oui, et on n'aime pas ça, bien sûr, les femmes qui ont des fortes personnalités. C'est mal vu, sauf qu'en fait, le grunge, ça fait partie de ses fondements, la personnalité. C'est un milieu où on est soi-même, point. On correspond à aucun code.
D'ailleurs, est-ce que le grunge a défendu le féminisme ou est-ce que Kurt Cobain?
Non, oui, beaucoup.
C'est intéressant de se le dire ça aussi.
Oui, il y a eu une vraie voix offerte aux femmes. Il y a eu le mouvement Riot Girls, qui est aussi à l'origine du féminisme, qui après s'est étendu à Seattle, faisait des concerts où ça s'appelait Girls to the Front et on faisait venir les filles au premier rang. Pour qu'elles puissent profiter des concerts comme tout le monde, où on faisait des tournées et des festivals avec uniquement des groupes avec des filles pour montrer qu'elles savaient jouer, où il y avait des manifestes de pourquoi les femmes sont l'égale des hommes, parce qu'il fallait les raconter en fait, et il faut encore le faire aujourd'hui, donc c'est terrible. Moi je me dis, si Kurt était là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il penserait de notre monde qui n'a pas changé, pas tant que ça. Donc oui, c'est un mouvement extrêmement féministe où les femmes existaient au même niveau que les hommes. Je crois que c'est très rare, je dis pas ça parce que je suis grunge, mais je crois que c'est très rare.
Mais je pense que t'as absolument raison. Vous parlez de la drogue, elle arrive assez tôt. Alors si j'ai compris dans ce que j'ai pu apprendre sur Kurt Cobain, ça commence par la fumette. Il a des maux de ventre.
Il a un ulcère qu'il essaye de faire passer par tous les moyens possibles, mais en fait avec ce mode de vie on peut pas. C'est-à-dire qu'il est soit en studio, soit en concert, soit dans un tourbus, brinque-ballé à droite à gauche, soit en interview. Il a aucun contrôle sur son planning, il a aucun contrôle sur son quotidien. Et moi c'est un truc que j'ai compris avec un autre groupe qui a suivi un peu le même parcours, qui est Alice in Chains, dont le chanteur est mort d'une overdose pas longtemps après Kurt Cobain. Ce chanteur, Lance Staley, expliquait « Je peux pas arrêter ce que je fais parce que maintenant je suis chef d'entreprise. l'entreprise. Et comme c'est des gens qui ont embauché leurs amis pour vendre les t-shirts, pour ceci, pour cela, s'ils arrêtaient les tournées, s'ils faisaient une pause, les amis n'avaient plus de salaire. Donc il y avait une pression, je pense, supplémentaire sur la tête de Cobain de se dire... il y a tous ces gens-là, je suis responsable en fait. Il n'était pas que père de famille en fait, il était d'une certaine manière chef d'entreprise.
Et donc sa manière à lui de continuer d'avancer, c'était la
drogue. C'est la drogue.
Puis après il y a le piège de la drogue, comme tu le disais très justement tout à l'heure, c'est-à-dire à un moment le produit est plus fort que toi. Alors sa mort va laisser le monde entier sous le choc, à commencer par le monde du grunge. Cette année 94, le groupe Pearl Jam lui rend hommage avec ce titre qui s'appelle « Immortality ». There's a trapdoor in the sun. L'album Vitalogy en 94 donc. Allez, je te pose la question, peau de banane. Est-ce que le grunge est mort avec Kurt Cobain?
Non, bien sûr que non. D'ailleurs, Pearl Jam a encore une tournée qui arrive dans 2 mois. Donc non, le grunge... Mais le grunge a changé. C'est-à-dire que je pense que ça a été un mouvement, à un moment d'espoir pour toute une jeunesse de se dire « Ah, mais en fait, on existe. Ah, mais en fait, il y a des gens qui vont porter notre discours, qui nous font participer à la vie politique de notre pays. » C'est un mouvement qui a beaucoup encourager la jeunesse à voter et à s'inscrire sur les listes et à s'intéresser à la politique de son pays. C'était un mouvement consolateur pour toute une nouvelle génération d'enfants de parents divorcés, parce qu'il n'y a pas que Kurt Cobain, hein, bien sûr, c'était la fin des années 60, c'est la première grande vague de divorce. Donc il y a eu ce truc extrêmement enveloppant qui est devenu dramatique et il a fallu se relever derrière. Mmh. Et nombreux de ces groupes, et Pearl Jam en premier, avaient d'abord dit « on arrête ». On arrête la musique,
ah ouais,
c'est pas possible. Oui,
à
c'est
la mort
trop
de
dangereux.
Kurt Cobain.
Ah oui, oui. Eddie Vedder a dit, moi, j'arrête tout de suite. C'est trop dangereux. Et non, lui-même se faisait poursuivre par des fans un peu fous, des paparazzi. Il sortait dans la rue avec des masques. Il a dû faire protéger sa maison parce qu'il y avait des gens qui rentraient par effraction. Enfin, il y a eu une sorte de truc boule de neige où, en fait, cette espèce de cocon de Seattle où on avait une solidarité, on se soutenait, on s'appréciait, etc. est devenu un truc très dangereux, très sale, très marketé, plein de presse, plein d'argent et d'argent sale. Et il a fallu reconstruire, en fait, le grunge après ça.
On a l'impression que les morceaux de Nirvana vieillissent pas. On va écouter Something in the Way, tiré de Nevermind. Écoutez ça. Ça va même devenir un extrait de la BO de Batman, si ma mémoire est bonne, en 2022. En fait, est-ce qu'on peut dire que Nirvana est constitutif de la pop culture aujourd'hui?
En tout cas, il y a sa place, une place qui est parfois centrale, parfois en marge.
Mais je pense même au logo, tu sais.
Ah oui, mais la typo de Nirvana, c'est la typo de Nirvana. Ça, ah, personne ne peut y toucher. La couverture d'Inotero, la pochette avec cet ange, c'est des trucs qu'on n'a pas besoin d'écrire Nirvana dessus, on sait que c'est ça. Mais moi, aujourd'hui, quand je vois des ados porter des t-shirts Nirvana qu'ils ont achetés chez H&M, alors qu'ils n'ont jamais écouté de leur vie ce groupe...
Ouais, c'est comme les types qui portent les Ramones, hein.
Bien
ils n'ont pas écouté non plus.
Bah, au début, ça énerve. Et d'un autre côté, je me dis... Ce que moi j'ai vécu à leur âge et qui m'a permis de grandir et qui certainement fait partie des raisons pour lesquelles je suis encore là aujourd'hui, eux ils le vivent d'une autre manière, ou en tout cas ils ont. Et un jour ils vont écouter. Un jour ils vont se dire c'est quoi ce truc. Something in the Way, c'est un morceau très obscur de Nirvana, très triste. Il est au fond d'un album, quoi. Il y a aucune raison qu'il perce. Et là je regardais avant de venir, il est à 440 millions d'écoutes sur Spotify, c'est énorme.
Il y a un morceau aussi, alors si tu me l'as appris quand on a préparé l'émission, il y a un morceau dans Succession.
Tout à fait, il y a Rape Me. Il y a Rape Me, alors j'invite les gens à chercher la scène parce qu'elle est trop longue à raconter, mais en plus elle est mise à un moment parfait. Les paroles correspondent exactement à ce qu'on est en train de raconter. L'autorisation a été donnée officiellement par Courtney Love de l'utiliser. Il y a un truc dans la pop culture. Après, il peut pas rester au cœur de la pop culture éternellement, mais en tout cas, il a sa place et il la perdra pas, je pense pas. Mourir à 27 ans, ça fait qu'on disparaît jamais. Hein.
Charlotte Bloom est passionnante, mais ça, on le savait déjà. Grunge, jeunesse éternelle. Tu sais quoi, on va écouter une dernière chanson avant de se quitter, puis de parler de ton expo, parce qu'il y a une expo qui va arriver, on y revient tout à l'heure. On va écouter alors ce qui a été considéré, mais qui l'est encore, comme l'hymne du grunge, Smell Like Teen Spirit. C'est un peu le morceau parfait ou pas?
Indétrônable en tout cas.
Tu te rappelles la première fois où tu l'as entendu ou pas?
Oui, oui. Assise en tailleur devant MTV sur la moquette chez mamie, à me dire waouh, ça c'est mes gens.
Moi j'étais dans un studio de radio et j'ai entendu ça. Et je me suis dit putain, vraiment.
Ouais.
Et on l'a passé à la radio dans l'heure qui a suivi. Allez, on écoute sur RTL. Smell Like Teen Spirit, c'était Nirvana et encore une fois je vous renvoie dans Grunge Jeunesse Éternelle qui est sorti en 2021 aux éditions EPA avec la formidable Charlotte Bloom. Merci infiniment Charlotte qui continue de travailler. Alors tu quittes pas le grunge.
Quoique
en ce moment tu travailles sur un truc un peu moins grunge, mais on y reviendra parce que tu vas revenir pour ça. Il y a une expo grunge qui va se passer à partir du 11 avril, dis-moi en plus.
C'est une expo dans une galerie que j'adore qui s'appelle French Paper Art Club, et avec le propriétaire de la galerie, Laurent Agnew, on partage un amour fou pour le grunge, et ça fait longtemps qu'on se dit faut qu'on fasse une expo, et on n'a jamais le temps, et là il a une fenêtre de tir, moi aussi. Et on s'est dit, ok, on y va, c'est maintenant. Donc du coup, c'est très rapide et ça commence le 11 avril, donc la semaine prochaine. Ouais. Et on va exposer, on va parler de grunge.